Désolé de vous imposer à nouveau ma présence. Je ne sais pas prévu comme ça au départ. Donc, d'ailleurs, on va poser la question de dire, mais alors l'aéronautique à Toulouse, comment finalement elle est arrivée, puisque ce n'est pas parmi les pionniers trouver vraiment un fondateur de l'industrie aéronautique à Toulouse. C'est un industriel des Pyrénées, finalement, qui va développer, fonder l'industrie aéronautique à Toulouse. Il s'agit de Pierre-Georges Latécoère. Voilà, donc vous allez voir le
diaporama. Voilà.
Ah, voilà, parfait. D'accord, je me sers la formule pour avancer. Donc, premier industriel toulousain aéronautique, puisqu'il y a eu quelques bricoleurs, comme vous l'avez vu, artisans, mécaniciens, qui ont fabriqué quelques avions à Toulouse, et qui n'ont pas très bien volé. Il faut attendre donc la Première Guerre mondiale, et ça fait le lien donc avec ce que vient de dire Sylvain, et la production en grande quantité d'avions pour qu'on assiste au décollage d'une industrie aéronautique toulousaine. Dans un contexte donc très particulier, mais en même temps, le personnage joue un rôle essentiel, et si il n'avait pas eu Pierre-Georges Latécoère, on peut se poser la question de savoir s'il y aurait vraiment une industrie aéronautique toulousaine, car il est quand même la clé de ce succès. Et il faut revenir donc sur son itinéraire, qui est assez aussi représentatif de ce qui se passe dans la région toulousaine au XIXe siècle. J'ai déjà évoqué dans ma première intervention, Toulouse et le Midi toulousain au sens large jusqu'aux Pyrénées est une région quand même assez industrialisée dans la France du XIXe siècle, parce que la France du XIXe siècle, comme vous le savez peut-être, n'a pas vécu vraiment une révolution industrielle à l'anglaise, avec des grandes usines, des machines à vapeur partout, tout simplement parce que déjà en France, il y a beaucoup moins de charbon de terre qu'en Angleterre, donc alimenter les machines à vapeur c'est plus compliqué, et puis on peut utiliser beaucoup plus facilement l'énergie hydraulique qui est beaucoup plus abondante qu'en Angleterre. Or, quand un industriel du XIXe siècle a le choix entre une machine à vapeur coûteuse, complexe à entretenir, etc., et un moteur, ce qu'on appelle à l'époque un moteur hydraulique, que ce soit une roue au-dessus ou en-dessous, peu importe, ou la turbine hydraulique qui a été inventée en France en 1827, il choisit toujours le moteur hydraulique parce que l'énergie est gratuite, l'entretien est très simple, il peut le faire lui-même ou le faire faire par ses mécaniciens d'entreprise. Donc c'est pas un archaïsme si la machine à vapeur n'a jamais supplanté en puissance installée la roue hydraulique ou la turbine hydraulique en France. C'est un peu une historiographie faussée, là, très britannique, qui présente la France comme étant en retard. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une voie vers l'industrialisation française qui est assez différente. Et Pierre-Georges Latécoère appartient à ces capitaines d'industrie typiquement français qui sont issus des petites industries utilisant l'énergie hydraulique dans les montagnes. J'aime bien donner un exemple concret pour quantifier la notion de révolution industrielle. Le cas anglais est spectaculaire, mais il faut savoir que jusqu'au deuxième tiers du XIXe siècle, le pays au monde qui produit le plus d'objets manufacturés en valeur et par habitant, il faut être rigoureux, en fait, ce n'est pas du tout l'Angleterre. Vous le savez peut-être ou pas, je ne sais pas, en tout cas, je vous le dis, c'est la Suisse. Avec une industrie mécanique très active, horlogerie, etc. Donc le pays le plus industrialisé du monde jusque dans France, ce n'est pas du tout l'Angleterre, c'est la Suisse. Et en Suisse, on utilise essentiellement l'énergie hydraulique. Il n'y a pas de charbon en Suisse. Donc le sud-ouest toulousain est un petit peu sur ce même modèle, et en particulier les Pyrénées. Et Pierre-Georges Latécoère, donc lui, il vient des Pyrénées, puisqu'il est le fils d'un industriel de Bagnères de Bigorre, qui possède une scierie. Donc ça peut sembler quelque part un peu archaïque, mais très vite, l'entreprise familiale dépasse le simple stade de la scierie. Donc voilà le personnage, bon voilà les différentes parties, mais bon, je reviendrai après. Bon là, il est déjà âgé. Hein. Mais donc, cette scierie dans une petite ville, et cette scierie, elle est prospère parce qu'elle a su diversifier sa production. C'est-à-dire qu'à partir du bois et de l'énergie hydraulique, les Pyrénées, on va produire pas seulement des poutres, mais aussi du parquet, des boiseries, des charpentes, etc., mais beaucoup plus élaborées, des décors de toutes sortes pour des écoles, des gares, des casernes,
Donc l'entreprise dégage d'ailleurs, à la fin du 19e siècle, avec 150 ouvriers, un profit de l'ordre de 50 000 francs or de l'époque par an. Vous savez qu'on doit multiplier en gros, au moins par 10 pour obtenir des euros actuels, donc un demi-million d'euros. Donc ce n'est pas une entreprise médiocre, comme beaucoup d'entreprises des Pyrénées. Hein. Les Pyrénées sont ensuite désindustrialisées, mais c'était une montagne industrielle pendant longtemps, que ce soit à l'Ariège, les Pyrénées ou les autres départements qui constituent la chaîne. Donc Pierre-Georges baigne dans cette culture technique des petits établissements dispersés qui souvent occupent même moins de 100 ouvriers, mais ça ne les empêche pas de réaliser une valeur ajoutée forte. Tout le monde vend au loin, en particulier vers la péninsule ibérique, mais parfois ailleurs, leur production. Et il est donc imprégné de tout cela, surtout qu'en plus son père passe à une autre activité qui est la production d'éléments métalliques. Destinés à être assemblés pour des charpentes ou autres. Donc il y a à la fois la maîtrise du bois et du métal. Et donc pour lui, c'est un apprentissage sur le tas qui est intéressant. En plus, c'est un passionné de randonnée dans les Pyrénées. Et là, il peut voir fonctionner d'ailleurs les dernières forges à la Catalane qui existent dans la montagne à cette époque. Donc Pierre-Georges a un potentiel que son père aussi devine. Son père l'emmène souvent voir aussi des premiers sites, non seulement hydrauliques, mais aussi hydroélectrique, parce que son père devient très vite un adepte de l'hydroélectricité, et il envoie son fils faire des études, donc son fils Pierre-Georges, à Paris, au lycée Louis-le-Grand, pratiquement le meilleur lycée parisien, où là, Pierre-Georges en fait a des hésitations, parce qu'il a un côté assez littéraire, qui lui servira un peu dans sa carrière aussi, il est passionné de littérature, il s'inscrit plutôt en droit dans un premier temps, mais très vite, il est rattrapé par la réalité. Il faut reprendre l'entreprise de son père, qui est malade, qui a un cancer. Et il est amené à préparer dès 1901 le concours d'entrée donc, à l'école centrale des arts et manufactures, l'une des plus prestigieuses écoles d'ingénieurs à cette époque. Et il intègre cette école en 1903, grâce notamment à ses notes en dessin industriel. Et ces années parisiennes lui permettent aussi de se constituer un premier réseau de jeunes amis, mais qui ensuite vont occuper des postes importants, soit dans l'industrie, soit dans l'administration, les ministères. Donc, son retour au pays est un peu difficile, parce que visiblement, d'après ses mémoires et ses lettres, il a eu une vie parisienne assez agitée, assez épicurienne, enfin, comme beaucoup d'étudiants. Donc, mais tout s'accélère avec le décès de son père en 1905, suite à son cancer, et à 22 ans donc seulement, il doit reprendre un ensemble industriel complexe qui a encore évolué pendant qu'il était étudiant, puisqu'on produit désormais dans l'entreprise Latécoère de Bannière de Bigorre des tramways, des meubles pour l'hôtellerie, des boiseries, etc. Et on produit aussi l'électricité qui est vendue sur le réseau pyrénéen. Donc pendant ses études, il doit sans arrêt faire des allers-retours entre son école et Bannière. Il obtient son diplôme donc en 1906. Pas très bien classé, vous vous en doutez, mais ça s'explique par les réalités du terrain et de la succession difficile. Alors sa mère joue un grand rôle, hein, même si les femmes du 19e siècle jusqu'aux années 1950 sont d'éternelles mineures, qui passent de la tutelle de leur père à celle de leur mari. Les seules qui échappent à cette tutelle, en quelque sorte, sont les veuves, qui, dès le 18e siècle, jouent un rôle dans l'économie, comme certaines recherches l'ont indiqué récemment. Cette femme est un véritable capitaine d'industrie en jupon, donc Isabelle, hein, la découverte, la mère de Pierre-Georges, et elle entretient donc la permanence de l'entreprise à Bannière de Bigorre. Mais Pierre-Georges, lui, est quand même très, disons, réticent à développer ce site. Tout d'abord parce qu'il a l'habitude de la vie parisienne, mais aussi parce qu'il pense que ce sera trop difficile de continuer la diversification, la spécialisation en faisant venir des ouvriers spécialisés, parce que faire venir des ouvriers spécialisés qualifiés ce qu'on appelle de spécialisés à l'époque, c'est plutôt qualifiés aujourd'hui, qui ont un savoir-faire technique particulier, les faire venir à Bannière de Bigorre, c'est quand même pas simple, et il pense qu'il vaut mieux aller s'implanter au moins à Toulouse. Il rêve aussi de Paris, mais ça se fera pas finalement. Alors, la succession donc est un peu compliquée, parce qu'il a un frère cadet, mais qui est un dilettante qui finit par accepter donc de toucher une sorte de rente sur l'entreprise sans participer à la gestion. Donc finalement, Pierre-Georges dirige l'entreprise avec sa mère Isabelle, et il peut se lancer cette fois-ci, une fois que la succession est réglée, dans des opérations plus complexes. Il abandonne tous ses rêves littéraires, sa passion pour le romantisme, les auteurs allemands aussi, et il devient assez besogneux, retors en affaires. Il utilise quand même son allemand pour décrocher un contrat de fourniture pour réaliser des wagons en totalité, cette fois-ci, pour les chemins de fer de Kaiser, donc pour l'Allemagne. Et il en profite pour améliorer ses équipements afin de réaliser ses wagons et traiter directement donc avec les compagnies pour éliminer les intermédiaires. Donc en 1911, il triomphe. C'est l'année de sa plus grosse commande. Jusque-là, il obtient une commande de 1500 voitures, de 1500 wagons complets pour la compagnie du Midi. Et l'année suivante, il signe avec la plus grosse compagnie, donc le PNM, le Paris-Lyon-Marseille, qui lui offre donc de belles perspectives. Les Bagnères est désormais une ville trop petite et l'usine est difficile à agrandir sur place. Alors, et surtout en plus, ce matériel ferroviaire doit être livré en gare de Toulouse. Donc, tout l'autorise désormais à ses wagons aux avions dans les usines de Toulouse. En 1912, donc, Pierre-Georges Attécoère établit une forge et des ateliers de mécanique près du pont des Demoiselles, donc au sud-est de la ville, dans un quartier assez industrieux à l'époque, embranché sur une voie ferrée. Donc c'est ça qui lui offre la possibilité d'exporter plus facilement ses productions. Et c'est là qu'en toute indépendance vis-à-vis de sa mère, il emploie une centaine de personnes, faisant des allers-retours à Paris aussi, où il crée un dépôt à la gare d'Austerlitz. Il cultive ses relations d'affaires, il développe donc, en quelque sorte, une double vie très sérieuse à Toulouse et à Bagnères-de-Bigorre, beaucoup plus festive quand il est à Paris, en tout cas le soir. Mais c'est avec la guerre que tout change, puisque désormais, il s'engage dans un processus différent. Alors, il est particulièrement patriote, il appartient à des milieux assez conservateurs, des Pyrénées, catholiques, avec une idée donc, du patron qui est un paternaliste, mais qui est un guide aussi, assez autoritaire. Et il veut s'engager dans l'armée. Alors, comme vous avez pu le voir sur la photo, il est myope, donc il réussit à se faire engager quand même dans l'armée, comme dans l'artillerie. Mais très vite, le gouvernement lui fait comprendre qu'il sera beaucoup plus utile comme industriel que comme pointeur dans l'artillerie. Donc, il est renvoyé dans ses foyers. Et c'est là qu'il décide de se lancer avec ses établissements toulousains, du pont des Demoiselles, dans la production d'obus. D'obus de gros calibre, comme vous pouvez le voir, effectivement, sur cette représentation. Donc, l'usine du pont des Demoiselles, d'ailleurs, devient très vite très dangereuse. C'est une tradition toulousaine, beaucoup d'usines qui ont une tendance relativement facile à l'explosion. Donc, on l'oblige à déménager son entreprise un peu plus loin, sur la route de Revel, donc toujours au sud-est de la ville, toujours avec, dans un faubourg assez industrieux, avec des voies ferrées qui lui permettent de s'approvisionner et d'expédier facilement ses productions. Là, il construit un nouvel établissement à plusieurs étages, où il emploie cette fois-ci un tiers de femmes en divisant le travail, afin qu'on ait décolletage, emboutissage, certissage des différents éléments de ses obus. Il apprend donc à être productif, à tenir les délais et bien sûr à assurer une qualité constante de ses productions. Donc c'est une expérience très enrichissante parce qu'il reste quelqu'un d'assez jeune à l'époque dans le milieu industriel. Alors l'usine de Bagnères continue à tourner à plein régime sous la direction de sa mère avec une diversification originale là, dans les cuisines roulantes. Qui font la réputation d'ailleurs des Attécoère, puisqu'ils sont capables de s'adapter à toutes sortes de productions. Et l'instant décisif, le basculement se rapproche, hein, je vous rassure, on ne va pas parler de train de ballon, c'est en fait en juin 1917. Il décroche pour l'après-guerre une commande de 11 000 wagons à fournir pour la compagnie du Midi qui souhaite s'équiper de manière moderne. Donc pour Pierre Georges, c'est un rêve de grand établissement pour produire ces 11 000 wagons. Et c'est le rêve de tout centralien, puisque créer, construire, mettre en place l'usine idéale, c'est un peu une sorte d'apogée dans une carrière d'ingénieur. Et il commence à acquérir des terrains, toujours dans le sud-est, mais un peu plus loin encore une fois, des terrains maraîchers dans ce qu'on appelle le quartier de Montaudran. Il acquiert 45 hectares à la fin de l'année 1917, entre le canal du Midi et la route de Revel. Donc l'ensemble est traversé par une voie ferrée, mais il n'a plus assez d'argent pour construire son usine. La seule solution pour récupérer ses capitaux, pour avoir une sorte d'avance de capitaux, c'est de décrocher ce qu'on appelle un marché de guerre, c'est-à-dire une production pour l'armée. Et il a conservé des contacts parisiens, en particulier avec, et c'est précieux, avec donc le ministre de l'armement, qui est un industriel comme lui, un ingénieur de formation, et qui était aussi passionné de culture allemande, enfin de la langue évidemment, hein, culture allemande, on va dire classique. Et ce ministre s'appelle Louis Lucher. Alors, les deux hommes discutent beaucoup, mais Lucher fait comprendre très vite à Pierre-Georges Latécoère que les wagons, la production de wagons est déjà complètement organisée, elle est confiée à l'entreprise Fourchambault. La production d'artillerie, elle est organisée également jusqu'à la fin de l'année 1918. Et c'est là qu'il lui suggère, Boucher suggère à Pierre-Georges Latécoère, qu'il y a un secteur où les capacités de production sont insuffisantes, comme on l'a bien compris après l'exposé de Sylvain, c'est donc l'aéronautique, où les besoins sont devenus gigantesques en 1917 et encore plus en 1918, suite à Verdun en 1916. Et Pierre-Georges Latécoère, bien sûr, ne connaît rien aux avions, mais c'est un industriel qui sait s'adapter à la demande et pour lequel le client est roi. Donc, il accepte une redoutable commande le 29 octobre 1917, 1000 avions, donc qui sont des avions déjà produits, mais que l'entreprise Samson n'arrive pas à produire en quantité suffisante. C'est une entreprise parisienne qui a d'abord posé le moteur d'avion et puis ensuite a produit l'avion complet. Gros, c'est un avion très classique, c'est un biplan, monomoteur, biplace de reconnaissance. C'est l'avion de reconnaissance par excellence de l'armée française à ce moment-là. Samson 2, hein. Samson est beaucoup plus archaïque et n'est plus produit à ce moment-là. Et on lui demande de produire le premier appareil pour le 15 mars 1918. Donc il signe le contrat le 29 octobre 1917, 15 mars 1918. Là, on n'est pas dans les délais de rafale. Donc il faut vraiment produire en série un avion. On lui confie tous les plans, évidemment. Et surtout, il faut construire l'usine, parce qu'il n'a pas encore d'usine. Donc là, il se lance donc ce défi. Il établit lui-même les plans de son usine. Alors, on en a des photographies aériennes. Voilà le Samson au salon de Paris un peu plus tard, dans le stand de Latécoère, parce qu'il est utilisé à des fins civiles ensuite par Latécoère. Donc, au fameux premier grand salon de la locomotion aérienne qui a lieu à cheval de 1919 à 1920. Et voilà l'usine, donc, Latécoère en vue d'avion, avec la grande halle centrale, enfin, avec ses trois grandes travées. C'est partie du patrimoine. On peut revendiquer une candidature à l'UNESCO. La première grande usine aéronautique toulousaine est toujours en état, on va dire, existant toujours, avec, bon, oui, je vois que François hoche de la tête un peu. Bon, les structures sont là, elles n'ont pas beaucoup bougé. Donc cette usine présente un caractère ultra-moderne pour l'époque, hein, avec une grande halle de montage en béton, éclairée par de vastes verrières en arc en plein cintre. Hein. Elle est équipée de ponts roulants, elle s'élève à 10 mètres du sol, pour une largeur de 20 mètres, une longueur de 70 mètres. Hein, donc c'est ce qu'il y a de plus moderne au point de vue de la rationalité de l'espace, les structures métalliques au niveau du toit. Hein. Tout ceci est très bien conçu. Et devant, surtout, devant, vous avez une piste, alors on ne la voit pas là parce qu'elle est cachée par l'aile de l'avion où a été prise la photo. Alors là, on est à l'intérieur, on voit, on a devant, donc, mais on ne le voit pas ici, la piste gazonnée, parce qu'il y a aussi d'autres bâtiments pour les bureaux, les ateliers, etc., qui sont autour de la halle principale, et une piste en gazonnée pour que les avions puissent décoller directement, être livrés directement depuis l'usine. Alors, les éléments nécessaire à la construction, étant amené par voie ferrée. Donc c'est quelque chose qui se veut au top de la modernité industrielle de cette époque-là. Alors, véritable promesse, le gros œuvre est achevé au début de l'année 1918, et les premiers avions sortent des chaînes en avril. Donc il y a un retard de 15 jours, le retard donc, s'avère modeste, hein, et la réussite industrielle est complète, puisque 600 appareils sont livrés avant le 11 novembre 1918. Mais c'est un marché de guerre, donc même s'il a investi pour 1000 avions, l'État lui financera les 1000 avions, donc ce qui lui donne un capital ensuite pour continuer son activité d'industriel de l'aéronautique et on va le voir aussi dans d'autres domaines. Alors, il recrute sur place des ouvriers qualifiés, puisque comme on l'a dit à plusieurs reprises, les avions de cette époque-là, et ceux que le Samson sont encore en grande partie en bois, avec des éléments en cuir, des ailes entoilées. D'ailleurs, il y a un atelier donc, de courage des ailes, mais aussi un atelier d'entoilage des ailes, avec une forte proportion de manœuvres féminines, évidemment. Donc ils trouvent sur place ces fameux ouvriers qualifiés parce que Toulouse est une ville où on a produit énormément de chaussures, donc c'était une capitale de la chaussure. Pour le travail du bois, Toulouse a été aussi au 19e siècle une capitale de la carrosserie hippomobile, donc on a produit énormément de voitures tirées par des chevaux. Et puis on avait commencé aussi à utiliser l'aluminium, les tubes en aluminium, et là, grâce à ces réseaux parisiens conservés, Georges Latécoère réussit à assurer l'approvisionnement en tubes en aluminium, qui est une structure essentielle pour la rigidité des avions à cette époque-là, et ce qui lui permet de tenir les délais. Et ce don d'organisation, il est complété par l'arrivée aussi d'autres ingénieurs qui sont envoyés par l'État français, et il y en a en particulier deux, qui reviennent de Russie. Vous avez aidé la Russie à développer sa production d'avions, au sud de la Russie. Mais avec la révolution d'octobre, ces ingénieurs ne peuvent plus travailler en Russie. Donc, ces deux ingénieurs sont envoyés à Toulouse, chez Latécoère, donc Émile de Voitine et Marcel Moine, qui restera aux côtés de Latécoère. Et tous les problèmes donc, sont résolus assez rapidement, d'alimentation, de matériaux spécifiques, etc. Et à l'arrivée, cette production fait entrer, en quelque sorte, Latécoère, en quelques mois, dans l'univers des avionneurs de l'époque. Alors, il ne fait pas partie de la première génération des pionniers, hein, des Wright, Farman, etc. Mais il est vraiment l'homme-clé de la deuxième génération, et peut-être celui qui est le plus compétent dans l'organisation industrielle, la capacité à produire des avions à un coût plus faible. Et ensuite, il se passionne pour l'aviation, puisque c'est le troisième temps de mon intervention. Pierre-Charles Latécoère devient un passionné d'aviation. Alors, on ne pilote pas, mais il vole régulièrement, parce que ça fait un biplace, donc il vole régulièrement sur sa leçon de biplace. Et donc, il décide en 1918, à la fin du conflit, que le temps du matériel ferroviaire pour son entreprise est terminé. Donc, il laisse cette dimension d'entreprise à sa mère. Et lui, il veut se consacrer totalement à l'aéronautique et à son exploitation parce qu'il pense que le transport aérien, avec les nouveaux avions qui sont apparus, qui sont capables de voler désormais pratiquement 200 km/h, c'est la solution. Il n'a que 35 ans, il aurait pu choisir de devenir un industriel un peu rentier, avec l'énorme commande qu'il a décrochée bon, pour la compagnie du Midi. Il est à la tête de trois usines, avec 1000 ouvriers. En fait, il le remet tout en cause et il se lance dans quelque chose de beaucoup plus grandiose et original, alors qui est une phase de son histoire, c'est-à-dire qu'il comprend qu'on a des stocks gigantesques d'avions, hein, en particulier des avions comme le Breguet 14, on va la reconstituer. Des Breguet 14, des fameux bombardiers très solides de la Première Guerre mondiale, il y en a 8000 de construits, il en reste plusieurs milliers à la fin de la guerre, qui sont à vendre souvent pour 1 franc hors 5 000. Donc, produire des avions en 1918, 1919, ou même dans la première moitié des années 20, c'est commercialement une assez mauvaise idée, puisque on a déjà tout ce stock à écouler d'avions issus de la guerre, de la gigantesque production pendant la guerre. Donc, son idée est un peu différente. Son idée, c'est de développer le transport aérien. Et il veut relier, dans un premier temps, Toulouse au Maroc, en passant par l'Espagne, par étapes de 500 km, et ensuite relier, passer du Maroc au Sénégal, et enfin, là où l'Atlantique est le plus étroit, l'Atlantique Sud, passer du Sénégal à l'Amérique du Sud. Et il demande le soutien de l'État français, qui lui accorde en partie, parce que là, il y a une ambition vraiment de géopolitique internationale qui est intéressante. Alors, il paye de sa personne, on le voit sur cette photographie, où il apparaît dans la voiture à côté du chauffeur. Il fait... à Barcelone, excusez-moi, il y a plus de frappe. Donc, Barcelone, il atterrit le 25 décembre 1918 à Barcelone, mais là, il n'est pas, c'est pas lui qui pilote, hein, évidemment, il n'a jamais appris à piloter. Donc, son pilote est à l'arrière de la voiture, et c'est le lancement de ce qu'on appelle la ligne Montaudran Barcelone. Et l'idée, c'est de poursuivre, de prolonger cette ligne ensuite jusqu'à Rabat. Donc, deuxième tentative, la première tentative échoue avec un accident, mais bon, il est blessé légèrement. La deuxième tentative réussit le 9 mars 1919. C'est là qu'il offre des violettes cueillies à Toulouse, à la femme donc, de Lyotet, donc du gouverneur du Maroc. Le voyage est réalisé en 24 heures par étape de 500 km, alors qu'en bateau, il faut, même les bateaux les plus rapides au départ de Bordeaux, mettent 4 jours. Donc on comprend l'intérêt. en particulier pour le courrier et pour les objets stratégiques. Oui, relatif, mais quand même. Voilà. Donc l'IOTS se montre séduit. Il a une grande autonomie au Maroc, hein, sur le protectorat marocain. Il va offrir 1 million de francs renouvelables pour l'établissement de lignes postales avec la métropole. Donc cette ligne, dans un premier temps, s'appelle en fait Espagne-Maroc-Algérie. Mais l'Espagne veut conserver son indépendance et jouer sa propre politique. Les armateurs de Marseille, en fait, veulent se réserver les échanges avec l'Algérie. Donc, finalement, on va appeler ça les lignes Latécoère, dans un premier temps. Les lignes aériennes Latécoère. Et elles relient donc d'abord l'Espagne et le Maroc, puis le Sénégal. Le 1er juin 1925, la ligne arrive à Saint-Louis du Sénégal. Et là, il faut bien sûr recruter des pilotes. Donc, il y a l'arrivée des fameux pilotes célèbres des lignes Latécoère. Pas confondre avec l'aéropostale qui apparaît après. Souvent, on mélange, on assimile tout à l'aéropostale, mais jusqu'au milieu des années 20, ce sont les lignes Latécoère. Donc, le nouveau nom n'apparaît que plus tard. Ce sera anachronique de les appeler comme ça avant. Donc, ces nouveaux pilotes, vous les connaissez tous, hein, puisqu'il s'agit de Jean Mermoz, de Marcel Rennes, qui arrive en 1924. Vous avez Henri Guillaumet, qui arrive en 1925. Et évidemment, Antoine de Saint-Exupéry, en 1926. Il faut assurer la régularité du courrier dans des conditions difficiles, avec des pertes relativement importantes, puisque la compagnie Latécoère perd entre 1919 et 1922 12 pilotes et mécaniciens, ce qui est quand même beaucoup, sur un total d'un peu plus d'une cinquantaine à l'époque. Donc ça fait un taux de pertes important, avec de nombreuses pannes, voire de la captivité dans le désert, des fois. Donc voilà, un VD 14 en panne dans le désert. L'idée, c'était de remplacer les Samson par des avions plus robustes que sont les Breguet 14, et qui ont été achetés pour une bouchée de pain, donc, aux arsenaux militaires. Et donc, ainsi, la ligne assure quand même 99% du service, malgré les pannes, malgré les accidents. Et la DECOER, en bon ingénieur, avec l'aide de Moine, de Wattine l'a quitté assez vite pour fonder sa propre entreprise, et ça, quelqu'un d'autre va en parler, donc je vous laisse le soin de présenter la chose. C'est dans le prolongement de la DECOER, mais c'est un autre industriel sur le site Toulousain. Donc, on modifie les Breguet 14, dans la DECOER, dans un Breguet 14 modifié, on transporte du courrier et des passagers. On peut transporter 3 ou 4 passagers sur cette ligne. Ce Breguet 14 va être rebaptisé Latécoère 6 en 1923. Donc les passagers sont livrés à eux-mêmes à l'intérieur, le pilote étant à l'extérieur. Donc en cas de souci, donc en 1922, Pierre-Georges Latécoère affirme que sa compagnie aérienne, est la première mondiale. Alors les statistiques lui donnent raison, puisqu'en 1922, il couvre plus de 3000 km de réseau avec 75 avions, 22 pilotes et 120 mécaniciens ou aides-mécaniciens. Donc les lignes Latécoère sont vraiment... j'arrive à la fin. Voilà. Les lignes Latécoère sont vraiment la première compagnie aérienne en 1922 au monde, avant les compagnies américaines qui vont se développer plutôt dans les années 30. Alors Pierre-Georges surveille de très près ce balai aérien. Les lignes assurent 3000 atterrissages et décollages par an, ce qui est déjà considérable à cette époque-là. Mais il voit toujours plus loin, et c'est là qu'en 1925, il envoie une équipe effectuer un vol de reconnaissance entre Rio et Buenos Aires avec un Breguet 14, piloté par Paul Bachet. Alors l'année suivante, Pierre-Georges se rend lui-même en Amérique latine, où il rencontre un banquier installé là-bas qui s'appelle Marcel Boumoulafou. Et il signe avec le président argentin l'accord d'exploitation de lignes, qui s'appelle les lignes aéropostales, au pluriel, sur le continent sud-américain, avec le franchissement de la cordillère, etc. Mais tout bascule ensuite, à partir de 1927, à l'exploit de Lindbergh, parce que là, effectivement, les choses s'accélèrent, et même si Pierre-Georges Latécoère réussit à faire traverser l'Atlantique Sud avec des hydravions, il s'aperçoit que cela devient très compliqué, le soutien de l'État s'atténue, il y a une alternance, l'État français est victime d'alternance politique forte, cartel des gauches, etc., pendant les années 20. Ensuite arrivent, bien sûr, les premières difficultés économiques. Et Pierre-Georges Latécoère, donc, change à nouveau, en quelque sorte, de métier, revient à l'industrie aéronautique en 1927, Et il cède sa compagnie générale d'entreprise aéronautique, les fameuses lignes Natécoère, à Bouillou-Lafont, et c'est là qu'il le rebaptise l'aéropostale. Donc l'aéropostale, c'est 1927, c'est le prolongement des lignes Natécoère. Et Pierre-Georges, lui, se consacre désormais pleinement à son nouveau grand dessin, qui est la construction d'appareils, en particulier d'hydravions, à partir d'appareils monomoteurs ou bimoteurs, comme le AT-19 de 1925. Là, on voit l'AT-28 en vol, et l'AT-28, c'est un appareil qui peut être muni donc, de flotteurs. Donc là, c'est devant l'usine de Montaudran, hein, on aperçoit la grande halle ici en dedans. C'est tiré des archives municipales de Toulouse. Merci, les archives municipales. Et donc voilà, l'AT-28 version hydravion, on est en train d'ajouter les flotteurs dans l'usine, l'AT-Power. Donc, désormais, il redevient un industriel producteur d'avions, mais là, le marché est de nouveau crédible, puisque on a épuisé les stocks de la Première Guerre. Il faut développer des avions plus performants, plus efficaces, et donc il se lance complètement dans ce nouveau défi, mais en produisant toujours pour l'essentiel à Toulouse, même s'il utilisait des étangs près de Bordeaux pour achever certaines productions. Et au même moment, donc, de Voiti, lui, se spécialise plutôt dans les avions de chasse. Alors la TECOR a quand même produit pour l'armée des hydravions torpilleurs, hein, voilà une série en production toujours dans l'usine de Montaudran, la chaîne de production datée de 190 et 298. Hydravion torpilleur, il en sera produit quand même 200 ou 300. Pour l'aéronavale. Donc, c'est bien lui le fondateur de l'industrie aéronautique à Toulouse. Le relais est pris par De Boitine et par d'autres, hein, avec d'autres sites industriels, mais de Boitine, vraiment à Montaudran.